Et sur Radio Shalom, nous a rejoint dans les studios Sylvain Attal. Bonsoir.
Bonsoir Pierre, bonsoir à tous.
Alors, je le disais juste avant la pause, comme chaque semaine, nous allons tenter de comprendre comment va le monde avec vous. Et ce soir, vous avez souhaité revenir sur la décision de Twitter et de Facebook, mais pas seulement, de bannir Donald Trump de leur plateforme. Alors, une décision, Sylvain Attal, qui fait débat, mais pas seulement aux États-Unis, bien au-delà, par exemple en France.
Oui, d'abord, il faut dire que, à mon sens, c'est une mauvaise idée, même une très mauvaise idée. D'abord, parce qu'elle arrive trop tard, elle semble dictée par des considérations qui sont plus des considérations d'opportunité politique qu'autre chose. Et puis surtout, elle risque d'être contre-productive, car, vous savez, les supporters de Trump ont la ferme conviction que ces plateformes de la Silicon Valley sont aux mains du Parti démocrate. Ben, ça va les conforter complètement dans ces théories qui sont parfois des théories complotistes. Les Trumpistes, c'est très varié, de type QAnon, les suprématistes blancs, antisémites et autres, vont se retrouver très certainement, et se retrouvent déjà d'ailleurs sur d'autres réseaux, comme le fameux réseau Gab. Ils y seront peut-être moins nombreux, et ils seront entre eux, et ils seront sans doute plus violents et moins contrôlables. Même si c'est vrai que vous avez remarqué, enfin tout le monde l'a remarqué, tout ce qui s'est passé autour du Capitole avait été annoncé sur des pages Facebook, ça n'a pas permis au FBI de prévenir ce qui s'est passé. Bon, Facebook a donc suspendu Donald Trump, il a aussi suspendu des centaines de comptes, d'ailleurs d'autres comptes incitant à la violence, et en vérité ça n'a pas changé grand-chose, puisque les idées extrémistes continuent d'être diffusées sur la plateforme. C'est même d'ailleurs, et c'est ça la contradiction profonde, et qu'il faut comprendre, c'est que c'est presque schizophrénique. C'est le modèle économique de ces plateformes. C'est-à-dire que plus c'est clivant, plus c'est partagé, et plus ça devient viral, et donc plus ça se traduit en termes de temps passé, ce qui est exactement ce que Facebook, Twitter et les autres, d'ailleurs, vendent à leurs annonceurs. Donc, dire d'un côté qu'on va interdire les comptes les plus violents alors qu'on a un modèle économique qui est assis sur, au fond, sur les propos exagérés, c'est assez contradictoire. La réaction tardive de Twitter et de Facebook est incompréhensible si on ne la replace pas dans le contexte américain où ces plateformes sont de plus en plus soupçonnées de fausser la concurrence et même soit de manipuler la démocratie, soit de ne pas pouvoir contrôler ce qui s'y dit, c'est-à-dire de modérer au fond les propos. Mais disons-le, le travail des modérateurs est en contradiction totale, je viens de le dire et de l'expliquer, avec les algorithmes de ces plateformes qui favorisent les contenus clivants, voire violents.
Alors, justement, Sylvain, nous savions que ces plateformes avaient acquis un rôle très important dans nos discussions privées et dans nos débats démocratiques, mais nous découvrons aujourd'hui qu'elles ont un pouvoir encore plus important, voire exorbitant, jusqu'à décider qui peut ou ne peut pas s'y exprimer.
Et oui, c'est ça qui a créé débat sur la décision concernant Donald Trump. La question, au fond, c'est celle de la souveraineté numérique, qui n'a jamais été posée avec autant d'acuité. Il y a la question des données personnelles, je vais y revenir tout à l'heure, qui sont, on sait, accessibles à l'État et aux services américains, parce qu'ils sont la plupart du temps hébergés dans des serveurs aux États-Unis. Et maintenant, celle du pouvoir exorbitant, effectivement, que s'arrogent ces plateformes. Il y a quelques mois, Zuckerberg disait que les politiciens pouvaient mentir sur Facebook. Aujourd'hui, ils suspendent Donald Trump. Allez y comprendre quelque chose. Donc, l'explication, elle est à chercher, au fond, dans cette enquête judiciaire de l'État américain et de 48 procureurs généraux, une enquête absolument hors norme, ouverte contre Facebook pour abus de position dominante. Le Congrès des États-Unis, sous l'impulsion des démocrates, c'est vrai, s'est depuis un moment déjà retourné contre Facebook, qui est plus du tout la société un peu cool qui était perçue il y a encore quelques années. Et c'est pas du tout une petite histoire. C'est ce que Facebook, qui pèse 700 milliards de dollars de capitalisation, risque, c'est soit une énorme amende, voire peut-être le démantèlement, voire les deux. Donc, c'est pour ça qu'on peut comprendre que Facebook essaye un petit peu de donner des gages, ou Twitter, effectivement, de donner des gages en ce moment. Alors, effectivement, vous l'avez dit, ça pose aussi pour nous, Français, Européens, le problème de se dire, au fond, bah, si aujourd'hui, c'est Donald Trump qui interdit, demain, qu'est-ce qui va les empêcher d'interdire tel ou tel homme politique parce qu'ils considéreront qu'il a franchi les bornes de ceci ou de cela. Et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle il y a de plus en plus de gens chez nous, au fond, qui disent pourquoi ne pas créer des plateformes à la taille nationale ou à la taille européenne d'ailleurs faire un peu comme les Chinois, sauf que les Chinois, eux, c'était pour bloquer Facebook et Twitter. Là, on ne dit pas qu'on va bloquer Facebook et Twitter, mais qu'on va essayer de créer des plateformes pour animer le débat démocratique à l'échelle de nos campagnes électorales. Parce qu'au fond, on n'a pas besoin d'être sur une plateforme globale pour avoir un débat purement national ou européen. Pourquoi pas? Et d'ailleurs, c'est très facile, c'est assez peu onéreux, c'est assez facile sur le plan technologique à créer. La question, c'est effectivement, il faudrait s'assurer qu'il y ait un grand nombre de gens qui l'adoptent et qui y aillent. Ça pourrait être organisé, par exemple, sur le modèle d'une fondation à but non lucratif, avec des engagements à respecter la vie privée et à garantir la modération et la liberté d'expression.
Alors, autre sujet qui est devenu viral ces derniers jours, il concerne Facebook, ou plutôt la messagerie WhatsApp, qui est la propriété de Facebook depuis 2016. De nombreux utilisateurs invitant les autres utilisateurs à migrer vers d'autres services de messagerie. Et en quelques jours, ce sont des dizaines de millions de personnes qui ont quitté WhatsApp pour Telegram et surtout pour une autre messagerie qui s'appelle Signal. Vous en pensez quoi?
Alors, il faut d'abord expliquer en deux mots pourquoi ça a pris des proportions. En fait, ce qui se passe, c'est que Facebook a l'intention de monétiser sa plateforme WhatsApp, qu'elle a acheté, je crois, de mémoire pour 6 milliards de dollars, ce que même pas rien, et qui, pour l'instant, au fond, ne rapporte pas d'argent. Donc, ce qu'elle veut faire, c'est la connecter avec ses autres messageries, Messenger, que plus beaucoup de gens utilisent, et Instagram. Et l'idée est que quand vous entrerez dans une discussion, non pas tellement dans les discussions privées de personne à personne, mais quand vous entrerez en discussion avec un service commercial, par exemple, sur WhatsApp, par exemple, une compagnie aérienne pour discuter d'un retard d'avion ou parce que vous avez un problème de livraison de tel ou tel produit, ce qui se produit et ce qui va se produire de plus en plus souvent, dans ce cas-là, Facebook voudrait récupérer ces données pour affiner les publicités qu'elle vous envoie sur le réseau Facebook. Le problème, au fond, c'est pas tellement ça en soi, c'est la confiance qu'on n'a plus dans Facebook, plutôt que la question de WhatsApp, qui est plutôt une messagerie sécurisée, qui ne pose pas tellement de problèmes. Alors, c'est vrai qu'il y a cet engouement depuis quelques jours pour Signal, qui, au contraire de Facebook, est géré par une fondation à but non lucratif, donc qui est beaucoup plus respectueuse de la vie privée, même s'il faut préciser qu'elle aussi, elle a ses serveurs aux États-Unis. Donc, sur la question de... Il y a aussi une forme d'opacité là. Mais enfin, au moins... Signal n'est pas Facebook. Mais Signal, c'est tout petit encore. C'est une vingtaine de millions d'utilisateurs, quand WhatsApp en a à peu près 2 milliards. Alors, le problème, je disais, c'est qu'effectivement, on ne fait pas confiance à Facebook. Déjà, il faut rappeler que les deux fondateurs d'Instagram, qui a été racheté par Facebook, avaient donné leur démission il y a quelques années, il y a 2 ans ou 3 ans, parce qu'ils n'avaient plus d'indépendance vis-à-vis de Facebook, ce qui était contraire aux engagements qu'avait pris Facebook quand ils ont racheté. Et surtout, les autorités antitrust américaines implorent Facebook de maintenir une séparation entre ces différents services. Et Zuckerberg s'était d'ailleurs engagé au moment du rachat de WhatsApp à ne pas changer sa politique en matière de données personnelles. Et là, il fait exactement le contraire. Alors, vous allez me dire, c'est quoi, alors que j'ai dit tout à l'heure qu'ils avaient de gros problèmes avec la justice américaine? C'est soit signe d'une arrogance absolument incroyable, qu'ils pensent que Facebook est intouchable parce qu'il est trop gros, Ou alors, autre possibilité, il espère créer une situation irréversible en cas de menace de démantèlement. C'est une partie très serrée qui est en train de se jouer, ça va durer des années. Et là encore, nous, Européens, Français, ça nous passe complètement au-dessus de la tête.
Une dernière question avec vous, il nous reste quelques minutes, Sylvain Attal. Au fond, est-ce que notre accoutumance à ces innovations numériques qui ont pris une place si importante dans notre vie quotidienne n'a pas rétréci notre horizon, ne nous a pas rendu moins curieux? Est-ce qu'on serait capable aujourd'hui de se passer de WhatsApp, de Google, de Facebook, d'Instagram?
Très bonne question. Je nuancerai un peu. Je dirais que ce qui se passe, c'est que c'est plutôt la question qu'il faut se poser, c'est ce qu'est devenu Internet depuis à peu près une dizaine d'années. Ça correspond avec l'essor d'ailleurs des réseaux sociaux et la concentration aussi aux mains de Facebook, qui est accusé aujourd'hui d'étouffer toute émergence de services concurrentiels, de plateformes concurrentielles. Alors, on prend conscience, en fait, sur le tard, non pas de la nocivité de l'Internet ou le fait que l'Internet nous aurait rendu, comme vous dites, moins curieux, plus flemmards, en fait, et moins dans la vraie vie. Au fond, c'est plutôt que l'importance sur lesquelles c'est d'ailleurs ce que nous avait montré Edward Snowden, vous savez, le lanceur d'alerte, dans son livre d'ailleurs qui s'appelle Mémoire vive et dont je recommande vraiment la lecture à tout le monde. C'est vraiment très, très, très instructif. C'est de la désillusion sur ce qui est devenu Internet. C'est plus du tout l'Internet des débuts, cette espèce de liberté absolument incroyable. Et aujourd'hui, malheureusement, Internet est devenu surtout un espace, soit un espace de surveillance de masse, soit un espace livré à la commercialisation, soit les deux en même temps. Et donc, il faut essayer de retrouver un peu l'esprit des débuts d'Internet, penser à une régulation. C'est beaucoup plus facile à dire qu'à faire, évidemment, mais ça suppose une certaine forme de coercition, certainement, sur les géants de ce secteur, qui ont aujourd'hui effectivement un pouvoir objectivement plus important que celui des États. C'est donc compliqué, mais c'est indispensable. Et si on veut sauver cette magnifique invention et surtout revenir à un débat moins exacerbé, on voit bien les effets, on voit bien ce qui est en train de se passer, les effets sur la démocratie. Bref, donc tout ça pour dire que ces questions de vie privée, de concurrence, de données personnelles, sont loin d'être anodines. On entend souvent dire les gens, j'ai rien à cacher dans ma vie privée, qu'est-ce que j'en ai à faire de ce que mes données personnelles sont. Snowden explique, il donne une comparaison, il dit, écoutez, c'est pas parce que, imaginez que vous soyez par exemple complètement agoraphobe, asocial, vous ne voyez personne, c'est pas pour autant que vous allez dire que vous êtes contre la liberté de se rassembler. Ouais. C'est pas, par exemple, si vous ne lisez aucun journal, par exemple, si vous n'aimez pas lire les journaux, regarder l'information, c'est pas pour autant que vous allez dire que vous êtes contre la liberté de la presse. Bon, voilà, c'est exactement pareil. Et ce sont donc, en fait, des questions qui sont vraiment des questions politiques, des questions même aussi géopolitiques.
Sylvain Attal, merci d'avoir été avec nous, comme chaque semaine, pour tenter de comprendre comment va le monde et ce dossier sur l'Internet, sur les plateformes, sur les réseaux sociaux, eh bien, ne fait que commencer. Merci d'avoir été avec nous, Sylvain.
Merci, bonsoir à tous.